RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h08, bon dimanche avec RMC, merci d'être avec nous. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, qui viennent peut-être aussi de se réveiller. Sachez que vous êtes au cœur de ce week-end des experts et en ce dimanche. Tout à l'heure, nous retrouverons Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Laetitia, je sais que vous conservez farouchement votre permis de conduire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire attention.
Ah oui, parce qu'on peut le perdre très vite.
Voilà, on sait que le permis comporte 12 points et que ces points, on peut les perdre très très vite. Eh bien, tout à l'heure, on en parlera. Comment conserver son permis le plus longtemps possible? Il se trouve qu'un avocat spécialisé dans ce domaine-là a sorti un guide pour justement avoir des conseils pour garder son permis. On en parlera tout à l'heure. Et puis on évoquera aussi les nouveautés de la rentrée avec Jean-Luc Moreau et vos questions auto au 32-16, donc à partir de 8h. Mais dans l'immédiat, vous le savez, c'est votre rendez-vous animaux du dimanche avec notre vétérinaire Laetitia. Le 32-16, animaux@rmc.fr. Avant d'évoquer les chauves-souris, Laetitia, avant d'évoquer aussi l'équitation et les Jeux Olympiques de Rio, eh bien on va parler du transport des animaux.
Voilà, et nous sommes avec Aurélia Greff de l'association CIWF qui a pour mission de promouvoir le bien-être des animaux d'élevage. Aurélia, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors demain est attendue une mobilisation internationale des associations de protection des animaux contre les transports d'animaux vivants. Alors on parle bien entendu des animaux de rente, des animaux de ferme. Alors pourquoi cette mobilisation, pourquoi ces transports posent problème ?
Alors oui, demain, donc le 29 août, on y a la première journée internationale de mobilisation contre les transports longue distance, donc à l'initiative de CIWF. Il faut savoir qu'il y a des millions d'animaux qui sont transportés chaque année sur les routes en Europe, mais aussi dans le monde, et que ces transports posent de sérieux problèmes de bien-être animal.
Concrètement,
voilà. Un exemple, c'est que les animaux sont souvent entassés dans des camions ou des cales de bateaux, donc ils sont trop nombreux dans les camions. Certains sont blessés, voire piétinés à mort. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être liés à l'épuisement et à la déshydratation, parce qu'ils peuvent être en transit pendant des jours, souffrir de températures extrêmes, ils peuvent rester sans nourriture et sans eau en quantité suffisante, ou pas avoir assez de repos. Il y a aussi beaucoup de stress, voire de la douleur et de la peur pendant ces transports, et ils sont souvent transportés simplement pour être abattus à l'arrivée dans des conditions qui ne respectent pas les règles internationales en termes de bien-être animal. Donc cette journée de mobilisation, elle a lieu dans une quarantaine de pays, il y a une centaine d'événements prévus demain partout dans le monde, aussi bien en Tanzanie qu'en Italie, qu'en France bien évidemment, mais aussi en Argentine, enfin voilà, vraiment large mobilisation.
Parlons justement de la France, quelles sont les règles en France? Parce qu'il y a quand même une réglementation concernant le transport des animaux de ferme pour justement leur bien-être.
Oui, alors il existe une réglementation qui est une réglementation qui s'applique en France et en Europe, qui est le règlement sur tous les transports d'animaux vivants, qui décrit des conditions. Donc il y a des réglementations qui concernent les compagnies de transport qui doivent être agréées.
Est-ce que le chauffeur, par exemple, le chauffeur de camion doit être formé s'il veut transporter des animaux?
Alors le transporteur, il doit avoir un certificat d'aptitude professionnelle au transport d'animaux vivants qui va indiquer qu'il a une formation de base pour savoir comment on doit manipuler les animaux. Et puis il y a aussi une réglementation importante par rapport au temps de transport, aux véhicules qui doivent être adaptés qui doivent être aux normes, qui doivent avoir des systèmes d'abreuvement adaptés, des systèmes de ventilation. Il y a un voyage réglementaire aussi au niveau de cette durée de transport, de la route, des temps d'arrêt, des temps de repos pour les animaux. Donc il y a aussi un registre pour vérifier que c'est, enfin, en théorie, pour vérifier.
Et justement, est-ce que c'est vérifié? Est-ce qu'il y a des contrôles?
Il y en a très très peu. On estime qu'il y a à peine 6-1% des qui sont contrôlés. C'est vraiment le maximum. Et surtout, quand il y a des infractions, elles ne sont pas sanctionnées. Donc, il n'y a pas de gros risque non plus d'avoir des infractions. Et même sans... Enfin, voilà. Déjà, les durées de transport, même celles qui sont autorisées, sont très longues. Et en plus, elles peuvent être largement dépassées. Il faut savoir que, par exemple, la France, on est le troisième exportateur d'animaux européens. On est le premier, par exemple, vers la Turquie. La Turquie, c'est des transports très très longs sur des milliers de kilomètres.
Oui.
Et en plus, on sait, puisqu'on a fait 5 ans d'enquête, on sait qu'arrivés à la frontière, ils sont souvent bloqués pendant des heures, voire des jours.
Donc, et là, il n'y a pas de réglementation aussi? Parce que quel est le temps maximum de transport pour les animaux en France ou en Europe, par exemple?
Alors, le temps de transport va varier selon les espèces et selon leur résistance, entre guillemets. C'est-à-dire que pour des animaux particulièrement fragiles, comme des animaux non sevrés, en général, c'est un transport de 9 heures, 1 heure de pause, 9 heures de route et après 24 heures de repos.
Par exemple, pour 9 heures, c'est beaucoup, hein?
C'est déjà beaucoup. Par exemple, pour les cochons, ça peut être jusqu'à 24 heures sans pause et seulement après avoir 24 heures de repos. Et par exemple, pour des vaches ou pour des chèvres, ça va être 14 heures de route, 1 heure de repos, 14 heures de route et seulement après 24 heures de repos. Donc, on parle vraiment là, cette journée, elle s'adresse aux transports longue distance.
Oui.
Et c'est à ces transports-là qu'on veut mettre fin.
Et alors, qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez qu'il y ait une réglementation qui raccourcisse ces heures de transport?
Alors voilà, nous on demande qu'il y ait une nouvelle réglementation, qu'elle soit révisée au niveau de la Commission européenne et donc ensuite appliquée en France, qui limite à 8 heures pour tous les animaux la durée des transports. On estime qu'au-delà de 8 heures, il est vraiment très difficile de garantir le bien-être animal.
Bien sûr.
Et le principe aussi qui nous guide est de dire que les animaux doivent être élevés et abattus aussi près que possible de leur lieu de naissance. Et on estime que 8 heures de route... Dans la plupart des cas, vous couvrez quand même déjà une belle distance.
Bah, c'est-à-dire, le problème aussi, c'est que, comme vous le dites, la France exporte beaucoup d'animaux vivants.
Oui.
Donc, ça veut dire que, voilà, longue distance et longues heures sur la route.
Oui, on en exporte beaucoup au sein de la communauté européenne. On exporte, par exemple, des animaux particulièrement fragiles, qui sont des veaux non sevrés. Là, on va les exporter beaucoup vers l'Espagne. Et puis, on va exporter beaucoup de bovins et beaucoup de ovins, donc des vaches et des moutons, vers Maghreb et Moyen-Orient. Et donc là, ce sont vraiment des durées très longues.
Alors justement, vous avez fait une enquête sur les veaux non sevrés, le transport des veaux sevrés, et je crois que les résultats sont édifiants.
Oui, donc il y a une enquête qui a été faite sur 2 ans pour voir que dans quelles conditions étaient transportés les veaux non sevrés. Et le résultat est édifiant et montre clairement qu'il est impossible de transporter des veaux non sevrés sur de longues distances en respectant non seulement le bien-être animal, mais aussi la législation. Parce que ce qu'on voit sur ces images et ce qu'on voit dans cette enquête, c'est que c'est quand même les veaux. Quand on dit nouveau-nés, ils ont à peine 10 jours et ils sont encore sevrés. Ils ne sont pas encore sevrés, donc ils devraient boire du lait tiédit ou un substitut de lait. Oui. Et ils se retrouvent dans des camions et ils peuvent faire jusqu'à 3000 km et plus de 40 heures de route. Et dans les camions, comme c'est des animaux particulièrement petits, ils ne savent pas bien utiliser... les systèmes d'eau, il n'y a pas de système d'abreuvement qui sont adaptés pour eux. Donc, pendant qu'ils sont dans les camions, ils n'ont ni eau ni nourriture. Donc, on voit des animaux qui sont assoiffés, qui lèchent des parois, qui essayent de déstéter les autres veaux. C'est vraiment des images poignantes. Mmh. Ils sont généralement sur 3 étages dans les camions pour mettre le plus d'animaux possible. Et du coup, ils n'ont même pas assez d'espace en hauteur pour tenir leur tête droite. Et ça, c'est des images qu'on a prises, notamment en France, où on était allé sur l'association avec qui on a travaillé sur cette enquête, est allé au marché aux bestiaux de Chaton-Gauthier en France. Et là aussi, on a vu aussi des veaux qui étaient aussi très faibles, qui n'auraient pas dû être transportés, qui deviennent malades ou qui se blessent. Mmh. Certains sont morts dans les camions et d'autres vont mourir à leur arrivée dans les centres d'engraissement, notamment en Espagne.
Ça sera peut-être le prochain scandale après le scandale des abattoirs, le transport sur des longues distances des animaux.
Bah en tout cas, ça fait des années que les associations globalement de protection animale en Europe alertent la Commission européenne sur ces problématiques-là. Il faut savoir que la Commission européenne a admis que, en tout cas, au-delà de l'Union européenne, il y avait peu de chances de faire respecter la réglementation. On n'a pas les moyens de faire des contrôles, on n'a pas les moyens de la faire appliquer.
Ça manque de moyens, c'est sûr.
Mais aussi, il y a une décision simple. Si on peut pas faire appliquer la loi, et ben on modifie la loi et on n'exporte plus les animaux au-delà de nos frontières.
Mmh.
Ça, c'est du coup notre demande, puisqu'on n'est pas capable d'assurer le bien-être des animaux qu'on exporte, et ben on les exporte plus au-delà de l'Union européenne.
Merci Aurélia.
Beaucoup de transport.
Merci Aurélia. Alors, vous avez des mobilisations qui ont lieu dans de nombreuses villes en France. Hein, et le CIWF France organise des actions, par exemple, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux et à Paris. Et c'est demain. Merci Aurélia. Merci. Bonne journée.
Au revoir.
Bon, Laetitia, on va revenir dans un instant. Pour parler d'autre chose, on va évoquer les chauves-souris. Voilà, parce que ce week-end, c'est un peu le week-end des chauves-souris.
Du coq à l'âne, mais c'est du coq à la chauve-souris.
du coq à la chauve-souris. Et vous verrez, la chauve-souris est un animal étonnant et on en parle donc parce que ce week-end, c'est le week-end de la chauve-souris.
Et voilà.
On fête la chauve-souris. Et oui, on en parle dans un instant. Tiens, si vous avez des chauves-souris chez vous, si vous voulez témoigner, appelez-nous ce matin, le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Il y en a qui ont la phobie des chauves-souris. Moi, j'ai grandi dans une maison où il y en avait de temps en temps et je trouvais ça assez sympa.
Et pourtant, voilà. Beaucoup de personnes ont peur des chauves-souris, mais c'est
exactement.
Parce qu'il y a des légendes dessus, des mythes.
Oui, c'est vrai. On en parle dans un instant. 3216, à tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux jusqu'à 8h. Merci d'être avec nous et bienvenue. Nous allons maintenant évoquer les chauves-souris, car vous le savez, peut-être pas, mais ce week-end, c'est le week-end de la chauve-souris. Et donc, on en parle avec un spécialiste.
C'est le week-end de Batman, alors.
C'est le week-end de Batman, voilà.
Vous entendez la musique derrière.
Et nous avons François Prudhomme pour en parler avec nous.
Voilà, et François Prudhomme qui est auteur de « Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière ?» Sans clé pour comprendre les chauves-souris. François, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Alors, il paraît que vous êtes à l'extérieur de votre maison en train d'observer les chauves-souris, c'est vrai ?
Bah écoutez, c'était pas prévu comme ça, mais pour ne pas réveiller toute la maison, c'est faire un petit peu tôt pour mes petites filles, je suis sorti de la maison pour vous parler, et en effet, à cette heure-ci, les pipistrelles sont en train de rentrer sous les ardoises de ma maison, donc je viens de me rendre compte que c'est l'heure aussi pour elles de finir leur journée.
Voilà, elles finissent leur journée avant de dormir, et nous commençons notre journée.
Tout à l'heure, avant d'arriver à la radio avec Laetitia, on essayait de trouver des chauves-souris dans Paris, c'est moins facile quand même. Est-ce qu'il y en a en ville, des chauves-souris?
Oui,
tout à fait. Il y a des chauves-souris en ville, comme il y en a à la campagne. Alors, il y a pas mal d'espèces en France. Il y a 35 espèces de chauves-souris différentes. Et chaque espèce a des mœurs un petit peu différentes. Mais certes, donc, il y en a certaines qu'on trouvera pas en ville. Mais il y en a d'autres qu'on va trouver parfaitement en ville. Les pipistrelles dont je parlais, vous allez en trouver. La noctule, qui est un petit peu la star cette année, il peut y en avoir dans les villes.
Pourquoi la star cette année?
Alors parce que c'est la chauve-souris qui a été désignée pour être le centre des animations dont vous avez un petit peu parlé tout à l'heure sur le week-end de la chauve-souris,
c'est
ce qu'on appelle nous la nuit de la chauve-souris.
Voilà, c'est la nuit internationale quand même de la chauve-souris qui a lieu.
C'est ça.
C'est la 20e édition et elle a lieu tous les ans fin du mois d'août.
C'est ça, et c'est l'occasion pour tous les bénévoles, tous les gens qui s'intéressent aux chauves-souris, de faire des petites actions de sensibilisation, généralement autour d'une soirée qui se passe autour d'un diaporama, et d'une petite sortie ensuite à l'extérieur pour essayer de rencontrer les chauves-souris.
Mais alors, est-ce que vous rencontrez encore des personnes qui ont peur des chauves-souris? Parce que moi, je rencontre encore des personnes qui, quand ils voient les chauves-souris voler autour d'elles, elles ont très peur. Pourquoi on diabolise comme ça les chauves-souris?
Diaboliser, c'est le bon terme, je pense, parce que ça fait partie, en effet, du bestiaire diabolique. Dans l'histoire dans l'histoire catholique, le bestiaire diabolique contient la chauve-souris. Et quand on la retrouve, soit dans les modillons, soit sur les chapiteaux des cloîtres ou dans les églises, c'est toujours accompagné des autres animaux diaboliques. Certainement parce que c'est un animal de la nuit,
et
que du coup, ça effraie toujours un petit peu. Ça a un vol auquel on n'est pas habitué. On a du mal à suivre une chauve-souris qui vole à l'œil, alors qu'une hirondelle ou un autre oiseau, on arrive à le voir. Ce petit mammifère-là, c'est plus difficile de le suivre. Et du coup, quand on le surprend quelque part et qu'il s'envole, ça fait un petit peu peur. Alors du coup, après, se sont accrochés à ça plein de mythologies et ça a participé certainement à un imaginaire un petit peu de peur. Alors c'est pourtant pas justifié, mais voilà, ça s'est maintenu comme ça longtemps.
Est-ce qu'elles sont dangereuses?
Alors, elles sont dangereuses pour les moustiques, mais pour nous, elles le sont pas, non. Les chauves-souris d'Europe, c'est celles que je connais le mieux, donc c'est celles dont je me permettrai de parler, sont des chauves-souris totalement inoffensives pour nous, d'ailleurs, qu'on ne rencontre pas au quotidien, alors qu'il y en a partout autour de nous, mais généralement, on les ignore complètement.
Eh oui.
Parce que c'est une cohabitation qui se fait très discrètement. C'est un animal qui ne va pas construire de nid, c'est un animal qui va plutôt se cacher dans des endroits tranquilles, qui va vivre la nuit quand nous on dort, qui vole alors que nous on est plutôt sur Terre. Donc en général, on n'a pas trop l'occasion de se rencontrer alors qu'on cohabite presque constamment. Donc c'est une cohabitation tout à fait pacifique et qui se passe généralement très bien.
Et elle ne s'accroche pas aux cheveux?
Elle ne s'accroche pas aux cheveux. Ça, moi, maintenant que je suis papa de petite fille, je sais que c'est ce qu'on raconte aux filles pour pas qu'elles sortent la nuit, pour leur faire peur. Et voilà, leur dire qu'attention dehors.
C'est comme le loup-garou.
Voilà, si on sort dehors trop tard, les chauves-souris vont s'accrocher dans nos cheveux. Mais non, c'est pas vrai du tout. Les chauves-souris y voient très très bien. Elles n'ont aucune raison de s'accrocher dans nos cheveux et elles y voient. Enfin, elles y voient. Donc, vous savez que c'est un système d'écolocation.
Oui.
C'est grâce aux ultrasons qu'elles émettent et à l'écho de ces ultrasons qu'elles réceptionnent ensuite dans leurs oreilles, qu'elles perçoivent le monde, mais elles le perçoivent de façon suffisamment précise pour être capable de capturer dans le noir un moustique qui vole. Donc un cheveu et plus plein de cheveux sur une tête, c'est ça, il n'y a aucune raison qu'elle ne le voit pas et qu'elle s'y en mêle. Donc aucune raison de se mettre dans les cheveux de quelqu'un, elles ne le font jamais.
Mais en fin de compte, si elles font un vol plané au-dessus de notre tête, c'est peut-être pour manger les moustiques qui veulent nous piquer.
Alors la plupart du temps, c'est qu'elles ignorent complètement ou elles sont totalement indifférentes à notre présence.
Oui, c'est ça.
Et du coup, nous, on a l'impression, parce qu'on est un petit peu peureux la nuit, et de voir un animal qui vole près de nous, on a l'impression qu'il s'intéresse à nous, mais en fait, la plupart du temps, elle est totalement indifférente. Elle a des souris autour de nous, mais elle ne cherche pas particulièrement à s'approcher de nous.
Alors, les chauves-souris ont quand même un rôle important dans la nature. Alors, on parle des moustiques, donc elles ont un contrôle sur les populations d'insectes. Et dans d'autres pays, elles s'occupent même de la pollinisation, comme les abeilles.
Oui, tout à fait. Alors, en effet, en Europe, il n'y a que des espèces qui sont insectivores.
Oui. Donc
là, c'est uniquement un rôle, dans les rôles écologiques, de régulation des populations d'insectes. Une petite parenthèse pour dire quand même que ça peut être très important. Dans le delta de l'Èbre, hein, où il y a de grandes cultures de riz, on a réussi, sur certaines exploitations, grâce à des nichoirs, à attirer de nombreuses chauves-souris qui ont permis d'arrêter les insecticides. Alors que sur des exploitations à côté, les insecticides sont très utilisés contre la pyrale du riz, qui est un ravageur important de ces cultures-là. Oui. Et voilà, donc c'est un insecticide naturel qui peut être extrêmement précieux. Mais en effet, à d'autres latitudes, les chauves-souris ont un autre rôle écologique. Il y a des chauves-souris qui sont donc, c'est ce que vous disiez, nectarivores. Et lorsqu'elles vont se nourrir de nectar, elles vont permettre, en passant d'une fleur à une autre, comme le font les abeilles chez nous,
la
pollinisation. Et d'autres chauves-souris qui, elles, sont frugivores, vont permettre la dissémination également des graines et vont permettre comme ça la dissémination de certaines espèces de plantes.
Alors, elles sont toutes protégées en France. Est-ce qu'elles sont en voie de disparition?
Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a une grande diversité de chauves-souris. Il y a 35 espèces en France et on ne peut pas parler de la même façon de toutes les espèces. Il y en a certaines qui semblent très bien se porter, d'autres sur lesquelles on s'inquiète. Du coup, il y a une vigilance qui est portée. Il y a certaines espèces qui sont particulièrement suivies. Comme tous les insectivores, c'est un petit peu une période difficile, quoi, parce que les insecticides sont quand même beaucoup utilisés.
Et oui.
Les populations d'insectes, par conséquent, diminuent de façon considérable dans certaines zones où l'agriculture est très intensive. Et du coup, les populations de chauves-souris en subissent directement les conséquences, comme elles subissent les conséquences de la destruction de leur habitat, comme elles sont aussi sensibles aux voitures ou aux trains ou aux éoliennes, à tout sur lesquels il peut y avoir des collisions directes. Et donc tout ça, c'est autant de menaces qui s'additionnent et qui font qu'il y a certaines espèces qui se portent pas très bien et qu'on surveille de très près.
Mmh.
À côté de ça, il y en a d'autres qui se portent plutôt bien et voilà, il faut le voir à l'échelle de chaque espèce.
Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas trop les chauves-souris parce qu'elles elles posent problème, elles se mettent en colonie dans les greniers. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ça?
Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la plupart du temps, la cohabitation se fait sans qu'on s'en rende compte. Alors, quand on s'en rend compte, il faut voir si ça pose vraiment problème. Soit ça fait très peur et on peut peut-être discuter avec quelqu'un qui connaît les chauves-souris pour être rassuré sur le fait que les chauves-souris ne vont pas construire de nid, donc elles ne vont pas apporter de matériaux dans la maison, elles vont rien apporter de sale dans la maison.
Mm-hmm.
Elles ne vont pas, ce sont pas des rongeurs, on appelle ça les chauves-souris, mais c'est par une analogie parce que ça ressemble un petit peu à une souris, mais ça n'a rien à voir avec une souris.
C'est
un insectivore, ça ne ronge pas, donc ça va pas manger ni l'isolation, ni les fils électriques, ni les poutres.
Mais ça c'est des idées reçues, hein.
Voilà, mais c'est pour ça que la première chose à faire, souvent, c'est de dialoguer avec la personne qui héberge une colonie pour la rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas de dégradation sur son habitation. Après, une grosse colonie de chauves-souris, ça peut faire, ça fait quand même de l'urine, ça fait quand même du guano.
Oui, ça peut avoir des nuisances,
ça peut occasionner des nuisances et sur lesquelles, du coup, il faut essayer de trouver une solution. Ce sont des espèces protégées, on va pas s'amuser, elles sont menacées, elles sont rares, la plupart du temps, on va pas s'amuser à les détruire trop facilement, surtout que c'est totalement interdit. Donc, le but, vraiment, c'est de trouver quelqu'un dans son entourage qui puisse donner des conseils. Et il y a pour ça plein d'associations et plein de relais en France.
Je vous
finis juste ce que j'ai
Non, mais vous savez que. Non, mais parce qu'on n'a pas terminé, on va revenir dans un instant. Je voulais juste faire un petit break.
On va en parler dans un instant. Si on a des problèmes avec des chauves-souris dans son grenier, on appelle une association qui connaît bien les chauves-souris, qui va nous aider justement à gérer ce problème.
On en parle dans un instant. Vous nous donnerez le nom de cette association, comme ça on sera au courant. Puis moi, j'aurais une question. Pour les observer, ces chauves-souris, où est-ce qu'on peut en observer? Voilà, vous nous expliquez comment aussi il faut faire. Ça sera après la météo et les infos de 7h30 et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 3216 si vous voulez témoigner. Tiens, vous avez vu des chauves-souris, vous vivez avec des chauves-souris parce qu'il y en a chez vous, et bien racontez-nous comment ça se passe. La cohabitation est bonne? 3216, à tout de suite. Attention là, tiens, tiens, petite question flash. Est-ce que vous êtes prête à écouter la question de Steve? Ma sœur a 16 ans, Laetitia, et elle a un chat. Mon problème est que j'y suis allergique au chat. Est-ce qu'il y a des solutions pour lutter contre cette allergie ou dois-je me résoudre à imposer à ma petite sœur de se séparer de son chat?
Oh là là, la petite sœur va être très très malheureuse.
Ça,
si
ça
elle
peut être embêtant.
Se sépare de son chat.
C'est un vrai souci.
Alors d'abord, je ne suis pas un médecin mais allergologue, donc je peux. Je ne peux pas vous donner vraiment des conseils concernant votre maladie. Tout dépend du seuil de sensibilité de votre allergie et des symptômes de l'allergie elle-même. Hein, parce que il y a des allergies qui sont minimes et d'autres où vraiment on a des crises d'asthme où là, ça devient vraiment sérieux. Alors, faut savoir quand même, moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes allergiques aux chats ont des chats. Donc, ça veut dire que dans certains cas ou dans plusieurs cas, en tout cas, on peut vivre quand même avec un chat si on est allergique. Mais c'est vrai qu'on peut diminuer le taux d'allergène dans son environnement, dans le sébum du chat, parce que les allergènes sont dans le sébum. Vous savez, le gras qu'il y a sur la peau, les poils
du chat.
Donc,
c'est pas le poil en lui-même.
C'est pas le poil, c'est ce qu'il y a sur le poil. Alors, d'abord, il faut stériliser le chat. Le fait de stériliser, ça diminue les allergènes, on le sait. Il faut laver le chat au moins une fois par semaine. Le chat, ça s'habitue très vite à ce qu'on le lave. Vous pouvez le laver. Et puis, tous les jours, vous passez un gant humide sur le poil du chat pour prendre le maximum, justement, de sébum et de poils. Vous lui interdisez certaines pièces, les chambres,
forcément,
tout simplement.
Oui.
Hein, voilà. Vous évitez de le caresser, vous, en tant que personne allergique. Et puis, vous passez très souvent l'aspirateur, vous aérez. Parce que bien souvent, on a une allergie au poil de chat, mais aussi aux acariens, faut le savoir. Vous évitez les moquettes, les tapis. Voilà. Tout ça, ça va diminuer le taux d'allergène dans votre environnement. Ça peut suffire à éviter les crises et peut-être à désensibiliser.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est le week-end des experts, c'est les animaux. Comme chaque dimanche, RMC vous propose entre 6h et 8h, vous le savez, 2h entières dédiées aux animaux. Laetitia, tout à l'heure, nous allons célébrer la France qui a été championne, vous le savez, d'équitation lors des derniers JO à Rio.
Deux médailles d'or quand
et
même.
Et une médaille d'argent.
Et une médaille d'argent en concours complet et en saut d'obstacle.
On aura avec nous un champion olympique en concours d'obstacles qui a justement raflé ses médailles. Et puis Sophie Dubourg aussi, qui est directrice technique nationale de la Fédération d'équitation. Mais auparavant, on évoque la chauve-souris à l'occasion de la nuit de la chauve-souris qui se déroule ce week-end. François Prudhomme est avec nous pour nous en parler. Il est l'auteur du livre « Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière ?» Et nous allons avoir tout à l'heure aussi Suzanne qui veut témoigner parce que elle côtoie les chauves-souris au quotidien, Laetitia.
Oui, voilà. Et peut-être on va la prendre tout de suite. Parce
allez.
Que allez, Suzanne.
Bonjour Suzanne.
Bonjour RMC, je vous écoute depuis des années et j'adore votre émission.
C'est très gentil.
Merci Suzanne. Alors, vous aimez les chauves-souris, vous?
Ah, écoutez, je me suis aperçue il y a des années de ça. Je voulais fermer mes volets, j'ai une vieille maison, donc j'ai des volets en bois.
Oui.
Et je veux, pour fermer mes volets, j'ouvre le volet du mur et je vois, il y avait deux petites chauves-souris, mais c'était des bébés. Et alors, j'ai repoussé le volet contre le mur, et depuis, ça fait des années, ça fait bien plus de 20 ans, hein, je ne ferme jamais, jamais mes volets.
Depuis ce moment-là?
Ah oui, je me suis aperçue. Oui, j'ai trois fenêtres, hein, et à toutes les fenêtres, et derrière la porte aussi, j'ai une porte d'entrée, où c'est en bois, quoi, je ferme, je la ferme pas non plus, et je me suis aperçue qu'il y avait des bébés. Parce que elles sont beaucoup plus petites que les grosses, enfin que les grosses, qui font quoi, je sais pas, 3-4 centimètres de diamètre, disons, voilà. Et donc, et le soir, je les vois, hein, elles sortent et elles reviennent et elles dorment là. Je n'ai pas mis d'abri parce que j'aurais pu construire des abris, j'ai plein d'animaux, hein, entre parenthèses. Donc, elles sont là et depuis des années. Alors, il y a des bébés, je pense qu'elles vont bien.
C'est vrai,
vous savez comment je m'en suis aperçue? Il y a des petites crottes, c'est vraiment très, comme des petites crottes de souris par terre.
D'accord,
tout noir.
Oui.
Et voilà, et un jour, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ouvre le volet, ah, j'ai vu. Ben voilà.
Bon, alors, François Prudhomme, est-ce qu'il faut arrêter de fermer ses volets pour sauvegarder les chauves-souris?
Ah ben, bon, la priorité, c'est quand même d'avoir un usage sur les volets, hein, ça j'imagine bien, mais quand on a la possibilité de les laisser ouverts, c'est vrai que c'est pas rare que les chauves-souris s'installent derrière les volets.
Ouais,
et c'est un beau témoignage de cohabitation qui se passe bien, ouais, c'est chouette.
Ah oui, oui. Mais j'ai plein d'oiseaux aussi de la nature que je nourris, enfin, moi, personnellement, j'ai des oiseaux.
C'est l'arche de Noé.
Oui, jouer chez vous, j'ai l'impression, voilà. Suzanne. Voilà. C'est très bien. En tout cas, merci pour ce témoignage,
merci,
Suzanne.
Merci, Suzanne.
Bon dimanche.
Et d'ailleurs, une petite parenthèse, oui j'avais, une fois, j'avais appelé aussi parce que j'ai élevé un petit hérisson Gédéon.
Ah oui.
Et voilà. Alors
on s'en souvient,
ben,
oui.
Ben, Gédéon, il est chez Alcatorda maintenant, dans une association quoi, qui s'occupe des animaux sauvages.
Voilà. Très bien. Merci.
Merci, Suzanne.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Bon, François, alors bon, on pourrait aller chez Suzanne observer les chauves-souris, mais on va pas les déranger, Suzanne, quand même. Comment fait-on si, voilà, on a envie d'observer des chauves-souris?
Alors, il y a plusieurs façons. Si c'est juste observer des chauves-souris en vol, c'est relativement simple. Il suffit d'aller se promener dans un village, même dans un grand village, même dans une ville, chercher un lampadaire, peut-être le bord d'une rivière, et vous avez de grandes chances de voir des chauves-souris en vol. Et c'est déjà un spectacle assez extraordinaire.
Pourquoi un lampadaire? Parce qu'elles sont attirées par la lumière?
Alors, parce que les lampadaires attirent les insectes, et certaines chauves-souris sont assez opportunistes, et du coup vont se retrouver autour des lampadaires.
C'est leur garde-manger, quoi.
Alors, il y a quelques espèces de chauves-souris qui détestent la lumière, qui ne supportent pas la lumière et qu'on ne trouvera jamais autour des lampadaires. Mais quelques espèces, comme la pipistrelle par exemple, se voient facilement autour des lampadaires et c'est un sacré spectacle déjà de voir ça. Voir des chauves-souris dans leur gîte, ça c'est plus compliqué parce que c'est des espèces qui sont très sensibles au dérangement. Et donc ça, le faire soi-même, c'est quand même pas trop recommandé. Par contre, on peut se rapprocher d'associations qui s'intéressent aux chauves-souris où des gens sont susceptibles de vous inviter à participer à des inventaires et donc d'aller voir des colonies dans les meilleures conditions pour ne pas les déranger.
D'accord.
Très bien. Et comment faire aussi pour les protéger? Parce que alors là, bon, on a les histoires de voler hein, qu'on peut ne pas fermer comme chez Suzanne. Mais est-ce que justement on peut mettre en place des abris pour les chauves-souris?
Alors oui, ça existe. On construit des nichoirs pour les chauves-souris qui peuvent se mettre près des arbres ou qui peuvent se mettre sur les façades d'une maison. Bon, ça c'est dans le cas en fait où on veut attirer des chauves-souris quelque part,
oui.
Ou alors parce qu'on a détruit un gîte quelque part et qu'on espère que en leur proposant un gîte de substitution, elles vont pouvoir s'y installer. Mais en fait, la meilleure protection, c'est d'essayer autant que possible de les laisser à l'endroit qu'elles ont choisi toutes seules, et parce que généralement elles ont suffisamment de gîtes autour d'elles pour choisir celui qui leur convient le mieux.
D'accord. Merci.
Eh bien, merci François.
Merci François. Alors, si vous voulez savoir un petit peu les animations gratuites hein, qui sont proposées un peu partout en France, vous allez sur le site de la nuit de la chauve-souris, tout simplement, c'est toutattaché.com. Et puis, vous aurez aussi beaucoup de d'informations sur les chauves-souris et sur d'autres animations qui ont lieu tout au long de l'année autour de la chauve-souris, bien sûr.
Voilà. Et si je peux me permettre, c'est le site de la Société française d'études et de protection des mammifères qui relaie la nuit de la chauve-souris en France. Et c'est aussi sur leur site que vous aurez le réseau des bénévoles et des associations sur tout le territoire français qui répondent aux questions des gens sur la cohabitation, en particulier avec les chauves-souris, mais aussi sur toutes les informations qui les concernent.
Voilà, la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. On mettra aussi le lien sur Facebook. Merci,
merci
François.
Merci François.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, bon dimanche.
Et bien voilà.
Merci.
Peut-être a-t-on, comment dirais-je, donné envie à tous ceux qui avaient un petit peu peur des chauves-souris de les découvrir, ces petits animaux sympathiques. Bon, Laetitia, on va revenir dans un petit instant sur RMC. Il est 7h40. Et on va évoquer encore une fois Rio. Alors c'est vrai que ces JO, vous avez pu les vivre sur RMC en direct, en intégralité. Et on va revivre quand même un bon moment, ce moment où, on va dire l'équitation française a triomphé là-bas. On en parle dans un instant avec deux de nos invités. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, pratiquement 8h moins le quart, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Laetitia, on va parler d'équitation et de nos champions maintenant.
Oui, bien sûr. Ah ouais, je pense que voilà, on l'a bien entendu et ça a fait du bon au cœur cet été
vrai.
D'entendre cette musique et surtout de voir nos cavaliers français avoir deux médailles d'or et une médaille d'argent, dont une médaille d'or en équipe pour le saut d'obstacle. Et nous avons avec nous deux invités, d'abord Kevin Staudt qui est champion olympique par équipe de saut d'obstacle et Sophie Dubourg que nous avions déjà reçue cet été, qui est directrice technique nationale de la Fédération d'équitation. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
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 Alors, d'abord Kevin, c'est à vous que je vais m'adresser. Alors, avec Pénélope Leprévost, Philippe Rosier, Roger Yves Bost, vous avez offert à la France une médaille d'or en saut d'obstacle par équipe. Alors, on refait le film pour ceux qui n'ont pas vu justement les épreuves. La veille de l'épreuve finale, vous étiez seulement cinquième par équipe. Mm-hmm. Le jour de la finale, alors Philippe Rosier s'était lancé, il a fait un sans faute. Vous êtes lancé, vous avez fait un sans faute sur votre cheval rêveur de Hurtebise. Et ensuite, Roger Yves Bost, appelé Bosti, hein, c'est quand même son surnom, qui est sous pression. Alors là, on l'a vraiment vécu, il était sous pression. Il s'est élancé, il a fait un parcours sans faute, offrant la médaille d'or à l'équipe. Alors, comment avez-vous vécu ce moment-là, Kevin? On a l'impression que vous ne réalisiez pas à ce moment-là que vous aviez la médaille d'or.
Bah, on était, il y avait des personnes sûrement mieux placées que nous pour faire les calculs, à savoir si on allait décrocher vraiment cette médaille d'or ou non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après le parcours de Bosti, on savait qu'il allait y avoir une médaille. Quelle était la couleur, c'était pas encore complètement défini. Comment je l'ai vécu? Bah, à cheval, on est concentré, on vit le parcours. En couple avec son cheval. Donc il y a l'intensité sportive, bien sûr, mais c'est rien comparé au fait d'être en bord de piste et d'être impuissant face au parcours de nos collègues. Et ça, à vivre, c'est très, très compliqué. Bon, Sophie en parlera mieux que moi parce qu'elle vit tous les parcours de tous les cavaliers comme ça. Mais c'est vrai que en tout cas, c'est intense, mais c'est beau, mais c'est très, très compliqué à vivre sans pouvoir intervenir justement sur le résultat.
Ah oui, parce que alors bon, nous en tant que spectateurs, on était sous pression, mais on imagine que vous aussi. Alors, une image superbe, ça a été le tour de piste à cheval, le tour d'honneur, hein, avec vos médailles d'or. Et à ce moment-là, comment vous l'avez vécu?
C'est une célébration. C'est vrai qu'il y avait un public formidable. Les Brésiliens adorent les chevaux, adorent le sport, adorent les sports équestres. Donc c'était super. Il y avait aussi une grosse délégation française qui s'était déplacée sur place pour nous soutenir. Donc ça, c'était génial. Et tous les gens sont restés dans les tribunes. Il faisait assez chaud, mais les gens ont souhaité rester pour célébrer avec nous ces médailles. Et c'est vrai que c'était un super moment.
Alors, vous avez dit à propos des chevaux, parce qu'il faut penser aux chevaux aussi, que eux aussi avaient gagné la médaille d'or, qui sont exceptionnels et qui vont marquer l'histoire. C'est vraiment les mots que vous avez prononcés. Qu'est-ce qui rend votre cheval rêveur et les autres d'ailleurs si exceptionnels?
Je dirais presque malheureusement, c'est la signification de cette médaille d'or. Nous, en tant que cavaliers, on les trouvait exceptionnels déjà jusque-là, parce que pour avoir fait tout le parcours qu'ils ont accompli, d'être sélectionnés dans de nombreux championnats, dont aux Jeux Olympiques, il fallait qu'ils aient quelque chose de rare. Mais je pense que cette médaille d'or olympique les a rendus exceptionnels aux yeux de tout le monde. Et pas seulement dans nos cœurs. Ce sont devenus des athlètes de légende. Et c'est grâce à ce titre olympique. Mais c'est vrai que pour la plupart des cavaliers, le fait de monter des chevaux de ce niveau-là, c'est une énorme satisfaction. Et forcément, on n'attend pas d'avoir des titres de ce niveau-là pour trouver que nos chevaux sont exceptionnels.
Est-ce que quand vous gagnez une médaille comme la médaille d'or, est-ce que les chevaux sont différents? Est-ce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui s'est passé?
Oui. Ils sont conscients que l'enjeu était certainement plus important que d'habitude, qu'ils avaient réalisé quelque chose de rare et exceptionnel. Et même s'ils n'arrivent peut-être pas à mettre les mêmes mots que nous sur la définition de ce titre-là, en tout cas, ils ont senti que ce jour-là, ils avaient fait quelque chose de rare.
Ah oui, carrément. Et alors, on parle de la méthode Stott, votre méthode. Alors, il paraît que c'est d'abord le bien-être des chevaux. C'est vrai.
J'espère en tout cas que.
Et comment assurer le bien-être des chevaux justement?
Je pense à tous les niveaux, c'est-à-dire bien sûr dans la finalité, c'est-à-dire l'équitation en piste. Lorsqu'on est en compétition, essayer d'avoir une équitation plutôt légère, en harmonie avec son cheval, que ce soit dans le mouvement et dans le respect de ce qu'il souhaite faire et accomplir. Et puis après, c'est aussi de manière plus générale tous les soins qu'on peut lui apporter à l'écurie, avec notre personnel, que ce soit les grooms qui s'en occupent, mais aussi tous les cavaliers maison et tous les gens qui assurent un peu l'entretien au quotidien. On a besoin d'une philosophie, ça fait partie de notre philosophie, en tout cas nous, à nos écuries, c'est d'essayer d'amener les chevaux au meilleur niveau, mais en les ayant plus comme complices
oui, bien sûr.
d'essayer de les soumettre à quelque chose qui est effectivement un peu antinaturel au départ.
Ouais, ils sautent très très haut, hein. On a vu les obstacles, c'est énorme. Comment vous arrivez à voir à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes?
Mais je trouve que ce qui est vraiment honorable dans la compétition aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'évolue pas d'année en année dans la puissance ou dans la force, dans l'effort, mais on essaye de trouver des parcours plutôt de plus en plus techniques où on va jouer sur des subtilités de couleurs d'obstacles, de légèreté de matériel pour provoquer des fautes, évidemment sans leur faire mal, mais aussi des fautes plus techniques de la relation entre le cheval et son cavalier sur le dressage, la disponibilité, la complicité. Et je trouve que c'est ce qui est formidable dans les sports équestres aujourd'hui, c'est qu'on a une évolution vraiment très très subtil de notre sport et pas uniquement basé sur la puissance pure. C'est pour ça que d'ailleurs que les épreuves de puissance sont de plus en plus rares, relèvent plus du spectacle, mais que la véritable compétition aujourd'hui, c'est ce que vous avez vu aux Jeux Olympiques ou ce que l'on voit chaque week-end avec des parcours très très délicats et des chevaux qui doivent être disponibles à l'écoute de leur cavalier pour justement donner le meilleur d'eux-mêmes.
Avec une concentration extrême, j'imagine. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous débutez votre parcours dans ces cas précis?
Au jeu, c'est en tout cas ce qu'on a vécu à Rio. À chaque parcours, on essaye d'obtenir le maximum de son cheval pendant ces parcours-là. Donc quand on entame la compétition, on essaye d'avoir toute son attention. On essaye vraiment d'être...
Dans votre bulle avec votre cheval, c'est ça?
Tout à fait, en osmose parfaite. Alors, il faut savoir que avant que la compétition commence, comme n'importe quel athlète, il y a une phase d'échauffement où on travaille notre cheval pour l'échauffement musculaire, pour les détails techniques, essayer d'avoir un cheval vraiment disponible, répéter un peu nos gammes, ce que l'on va demander à notre cheval sur la piste. Et une fois que l'on est dans le couloir et qu'on va se lancer dans l'arène, oui, je pense que on va rechercher l'osmose totale, essayer de ne faire qu'un avec son cheval. Et je pense que c'est le rêve de chaque cavalier, c'est de retrouver le côté centaure et qui est difficile à obtenir, mais qui de temps en temps, comme notamment là à Rio, on a réussi à obtenir des sentiments exceptionnels. Et c'est ça surtout qui a rendu cette médaille très très belle.
Merci Kevin.
Merci Kevin.
Et encore bravo,
hein, vraiment. Hein. Merci à vous et à toute l'équipe de France, bien sûr, pour ces médailles.
Alors vous pouvez rester avec nous, hein, Kevin, puisque nous avons avec nous Sophie Dubourg. Donc,
je vais écouter Sophie.
Alors. Directrice technique nationale de la Fédération de l'équitation. On a eu la chance d'avoir juste avant les JO, hein, Laetitia, qui nous expliquait comment on a cheminé des chevaux comme ça de compétition d'un continent à un autre.
Et nous expliquait que eux, ils n'avaient pas le jet lag, les chevaux, et qu'ils étaient très habitués.
Oui, qu'ils avaient un avion aménagé, etc.
Voilà, ils étaient très habitués à aller dans des championnats dans le monde entier. Donc c'était pour eux, quelque chose d'habituel quelque part. Donc nous avons trois médailles. Hein, nous avons eu trois médailles en concours complet par équipe, en saut d'obstacle par équipe. Et ça c'est pour l'or et une en argent remportée par Astier Nicolas en concours complet. Est-ce que vous vous attendiez à toutes ces médailles, Sophie?
Alors c'est un bilan formidable. Est-ce qu'on s'y attendait? Oui, on avait annoncé qu'il était possible d'en ramener quatre.
Oui, vous étiez très prudente à l'époque.
Oui, bien sûr. On est toujours très prudent, surtout avec ce sport, avec ces animaux, avec la distance, avec tout ça. Une médaille équipe dans la discipline de l'obstacle et du complet était tout à fait faisable. Et on avait même rêvé de médailles individuelles puisqu'on avait des couples très aguerris. On en ramène trois, dont deux or. Moi, ces deux médailles équipes sont si fortes et si symboliques que, bien sûr, je ne pouvais pas espérer mieux. Mmh. Voilà. Alors, encore un peu plus en individuel, parce qu'on est toujours gourmand. On a eu quelques déboires avec deux couples, notamment dans l'équipe de saut d'obstacle. Je pense que tout le monde a suivi l'histoire du forfait de Simon Delestre et de Ryan et de la chute de Pénélope.
Et la chute Prévost de Pénélope, ça fait mal.
Il a écarté terrible. De la course individuelle, mais qui a su être si forte dans cette équipe et ramener autour de son cou aussi la médaille d'or par équipe. Donc bien sûr, bilan très, 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 très positif. Je voulais juste rajouter un petit mot sur la méthode Kevin Staut dont vous avez parlé, oui. Dont il a parlé, et qu'il est bon de noter que ce cavalier-là, avec ce cheval, Rêveur de Hurtebise, a fait il y a 2 ans les championnats du monde et vice-champion du monde, a fait les championnats d'Europe l'année dernière sur une très belle finale avec un double sans faute, et cette année qui est médaillé olympique. Donc c'est aussi réussir dans la longévité de la carrière du cheval, quelque chose d'extraordinaire. Dans 2 ans, en 2 ans, 2 années, 3 années de compétition, de championnat international, inscrire à chaque fois ce cheval-là et le ramener médaillé. Mmh. Et cette année, champion olympique, un cheval qui a 15 ans maintenant, montre que quand on s'attache aussi au bien-être, au moral et à l'intégrité physique de son cheval, on peut utiliser, entre guillemets, longtemps c'est chaud et dans un sport qui est très exigeant.
On espère que le cheval va rester en France parce que là sa cote augmente.
Mais bien sûr, on en est sûr.
Bah, les chevaux olympiques, ils vont être très demandés, n'est-ce pas?
Alors les chevaux olympiques, ouais, ils sont surtout très demandés quand ils ont la dimension olympique dans l'année qui précède les Jeux olympiques. Hein. On sait que les chevaux sont très fragiles. 4 années, c'est très long. Voilà, donc on s'en inquiétera plutôt. Plutôt fin 2018, début 2019.
Alors moi, ce que j'ai regretté, Sophie, pendant ces jeux, parce que je suis bien sûr intéressée par toutes les disciplines équestres, c'est qu'on a eu que les sauts d'obstacles en différé, retransmis sur les chaînes nationales et pas les autres disciplines. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que ça va justement, ces médailles vont justement avoir un effet positif,
populariser
ces disciplines?
Bien sûr. Ben pour moi, c'est un des principaux. Objectif qu'on doit avoir, et j'espère s'être tombé là, parce que c'est un sport formidable. Quand on entend Kevin en parler, il y a toute la dimension, la relation avec l'animal, en plus du sport de 2 athlètes qui se dépassent, qui doivent intéresser tout le monde, petits et grands. Ce sont de très belles images. Alors on est encore trop peu connu, en tout cas dans notre sport de haut niveau. On a une discipline qui est très belle, qui est celle du dressage, qui est assez facile à comprendre, qui peut être bien commentée, bien animée, et qui est très très jolie, où vraiment l'animal,
oui, c'est
les allures de l'animal sont tout à fait. On a le concours complet avec le test de crosse, qui est aussi très spectaculaire. Donc on espère, oui, que ces jeux aura mis ça en avant. On a aussi une chaîne spécialisée qui l'a fait et qui a retransmis toutes les épreuves sans tâche du premier concurrent jusqu'au dernier, voilà, qu'on félicite et qu'on remercie. Mais c'est vrai que les grandes chaînes publiques ou la presse généraliste, on a un petit peu de mal à faire entendre, en tout cas parler de nous. Oui.
Voilà, et espérons que pour les prochaines compétitions, vous soyez de plus en plus médiatisés. Merci beaucoup, Sophie.
Voilà, et puis juste pour préciser que Rio, c'est pas terminé pour les chevaux français, puisque
il y a les Jeux paralympiques.
Il y a les Jeux paralympiques,
voilà.
De 4 cavaliers, hein, c'est ça?
C'est ça, de 4 cavaliers avec des handicaps différents et des reprises. Alors, ce n'est que du dressage, que des mouvements de reprise imposés selon les niveaux de difficulté, les grades dans lesquels ils sont classés. Il existe 4 grades. Aujourd'hui, on a 2 cavaliers en grade 1, qui est le grade avec un handicap le plus lourd, le plus important. Mmh. Et puis un cavalier en grade 2, un cavalier en grade 3. Et ensuite, on a un classement aussi par équipe. Donc, dans les mêmes conditions, dans le même village olympique, sur le même site, voilà, du 7 au 14.
On suivra ça de près. Merci beaucoup, Sophie.
Et on a nos chances, hein, Sophie, il faut le dire.
Merci beaucoup, Sophie Dubourg et Kevin Staut. Laetitia, on va se quitter avec notre vidéo LOLCAT. Alors, c'est une petite sélection de vidéos de chats qui, justement, sont devant la télé. Regarde les
Jeux olympiques. Parce qu'on voit toujours les chiens regarder les
Mais il y a des chats aussi qui adorent ça.
Mais les chats aussi s'intéressent aux Jeux olympiques, bien sûr.
Retrouvez ces petites vidéos, cette petite sélection de vidéos sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Vous cliquez sur J'aime. Laetitia, on sera là dimanche prochain.
Oui, comme tous les dimanches de cette année, je vous embrasse bien fort. Bon dimanche à tous. Bon barbecue pour ceux qui en font un.
Et dans un instant, ce sera Jean-Luc Moreau qui nous rejoint pour 2 heures dédiées à l'automobile. À tout de suite après la météo, les infos.